parce que juste tu me dis ça, je suis sur une question que je m'étais recopiée parce que tu t'intéresses aussi un petit peu, peut-être beaucoup, à l'hébreu. Et je suis sur. Moi, je m'y étais intéressée grâce à une émission radiophonique. Et là, je suis sur le terme manhe. Je ne sais pas si je le prononce bien. Qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est manhe. Ouais.
Man, et je viens de tomber sur un truc latin. Man, M-A-N-E. Donc mané.
C'est un peintre, ça, mané.
Là, ah oui, mais en latin, c'est le matin.
Le matin. Ah oui.
C'est génial.
Alors,
l'aspect,
c'est quoi
voilà. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a une transversalité. Non, de toute façon, on le sait. Enfin, moi, je suis. Quand on sait rien comme ça, on peut s'étonner avec joie encore. Ça fait deux fois.
Mais on sait pas. En fait, il y a des choses qu'on sait, qu'on oublie, qu'on sait pas.
Donc qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? On reprend sur la question.
Non. Mais alors. Après mes études de sociologie, j'ai pris le risque absolu de faire des études de théologie.
Ah bon ?
Donc, je ne sais pas si on peut dire ça à Paul Bert, mais je le dis quand même.
Ah ouais, bah,
donc j'ai fait un peu de théologie, donc j'ai fait un peu de grec, j'ai fait ce que j'avais très mal fait quand j'étais à l'école, en primaire, enfin au début du collège. J'ai fait un peu de latin, j'ai fait un peu de grec, et j'ai fait de l'hébreu.
D'accord.
Et ça m'a complètement fasciné. D'être au milieu de ces gens qui étaient très concentrés dans la prière, voilà. Donc j'avais fait un petit UV sur Duns Scott, une exégèse du livre de Ruth dans la Bible, voilà. Donc
ah oui, quand même. Ça, voilà. Tu me l'avais pas dit.
Ben, j'avais pas dit, je peux pas tout dire d'un coup, mais c'est-à-dire que moi, après avoir rejeté tout ça vers mes 14 ans. Une quinzaine d'années après, j'ai besoin d'y revenir, surtout par le biais d'un livre qui s'appelle Le génie du christianisme de Chateaubriand.
D'accord.
Qui est un super livre qui explique un peu la raison du christianisme de façon généalogique depuis Homère jusqu'à aujourd'hui. Donc moi j'ai trouvé ça très très bien écrit, très intéressant et qui reprenait tout ce qui était du christianisme dans le meilleur de ses aspects.
Alors je vais te demander quelque chose, est-ce que tu prends des notes quand tu lis ?
Il faudrait que j'en prenne plus.
Et ouais, c'est ça. Ouais.
Il faudrait que j'en prenne plus. Je pense que de toute façon, si on ne prend pas de notes, on n'est pas un très bon lecteur. Mmh. Et que quand on écrit après, il faut quand même moi, j'ai, depuis des années, j'écris beaucoup de. Enfin, j'ai des carnets, des cahiers avec beaucoup de citations.
Ouais.
Peut-être plus de citations que de phrases personnelles d'ailleurs.
Ouais,
voilà.
Oui.
Voilà, donc ça, ouais. Voilà, je voudrais faire un florilège un jour peut-être.
Mais après, en termes de phrases personnelles, on va parler, peut-être que tu en liras un morceau plus tard parce qu'on va encore dérouler des choses.
Ouais.
Mais tu as produit quand même aussi un livre 2019, là, donc ça vient d'arriver.
2019.
Là, on va directement à la peinture.
Ouais. Ben oui. Alors, ce qui m'a intéressé avant de démarrer sur le livre, ce qui m'a intéressé aussi dans le rapport à la religion, ce que j'ai aimé, moi, pourquoi je suis revenu après le génie du christianisme un peu sur la question de la religion, c'est qu'il y a les arts et qu'on ne peut pas se passer, contrairement à ce que dit Michel Onfray, on ne peut pas se passer de la question des arts. Les arts, sans la Bible, on n'y comprend rien.
C'est un lézard.
C'est un lézard. Voilà. Donc moi, je suis très très intéressé par la question des arts. Et je suis un chrétien. Je ne sais pas si je suis un bon chrétien, certainement pas. Mais en tout cas, je suis moi, j'aime les arts. Voilà. Et Nietzsche disait, d'ailleurs, qui n'était pas forcément un très bon chrétien non plus, il disait... qu'en fait le philosophe doit être artiste. S'il n'est pas artiste, c'est pas un bon philosophe. Voilà. Mmh. Donc ça veut dire que il doit être en tout cas il doit faire de sa vie une œuvre d'art en quelque sorte.
Ah ben tu vois, tout à l'heure tu me disais non, il faut que ça soit Nietzsche qui te le dise.
Alors est-ce qu'on peut faire à la fois de sa vie une œuvre d'art et pour faire une œuvre ? Moi j'ai pas fait d'œuvre. Je pense que je suis pas capable d'en faire une. En tout cas,
mais c'est
pas
dans un sens.
Mais par contre, faire de sa vie une œuvre d'art non plus. Enfin, faire de sa vie une œuvre d'art, c'est-à-dire, ça serait souffrir le moins possible. Je dirais ça. Et dans le cas de Nietzsche, c'était pas ça, puisque lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. On voit ça dans ses correspondances. Donc la question de la peinture, elle remonte pour moi au fait qu'avec mon père, en fait, mon père qui est un peintre amateur, me fait copier un tableau de Cézanne, les joueurs de cartes. Et les arcades, les régates à Argenteuil de Monet. Donc tout de suite, je m'aperçois dans ces moments-là, dans ces heures que je passe à faire ces copies, il y a une sérénité totale, il y a une plénitude, il y a quelque chose de très très, de sortie du temps. Ouais. Sortie du temps comme pour encore plus se remettre dans son temps à soi, en tout cas. Et voilà. Et donc, après, le temps passe, jusqu'en 2019. Donc, et en 2019, mon éditeur Jean-Paul Brussac, enfin un éditeur qui s'appelle Jean-Paul Brussac, qui tient la librairie olympique.
Voilà, au Chartron, à Bordeaux.
Qui est un grand libraire.
Grand lecteur, grand
artiste et petit éditeur, hein, puisque, ouais. Puisque je fais partie de sa collection. Voilà, donc Jean-Paul Brussac, il décide de publier Le Rire de Kooning, parce que c'est un grand connaisseur de la peinture américaine, des arts, de la théorie des arts. Et voilà, donc on sort ce livre. Et alors, donc ce livre, moi je vais commencer à l'envers, ce livre. C'est-à-dire,
allez.
Je vais commencer par les remerciements. Donc voilà, donc ce livre, il a été possible aussi par mon ami Sandric Lemaguère, avec qui j'avais fait la revue Sprezzatura.
Voilà.
La revue Sprezzatura à partir de 2009, en compagnie de Metti Navarro.
Tu vas un peu plus nous en parler juste après. Hein,
voilà, d'accord. Voilà, et puis après, ben, je remercie, je voulais évoquer Jacques Bernard. Camille Bousquet, Cécile d'Allemagne, Alexis Berdoula et Muriel Deschaux qui ont une bonne, très bonne réception de ce livre. Voilà, donc ça c'est ça. Alors, l'histoire du rire de Kooning, bah, c'est cette photo que je trouve dans un catalogue où de Kooning rit dans un terrain vague. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé le livre comme ça. Rire de Kooning. Il se trouve que ces femmes aussi sont toujours en train de rire avec leurs dents, leurs grandes dents. Ces dents qu'il va lui-même découper dans des magazines et qu'il va coller sur la toile. Mmh. Voilà, donc il y a du rire. Chez de Kooning, il y a du rire. Et voilà. Donc la peinture de Kooning m'a interpellé sur la question des women, évidemment. Mmh. C'est-à-dire, à un moment où l'expressionnisme abstrait américain fait plutôt de l'abstrait, lui, il figure ces women au front de la peinture. Il les amène au front de la peinture. Mmh. Et elles sont frontales, et elles tiennent tout le tableau, elles vous regardent, un peu comme si les demoiselles d'Avignon arrivaient avec une seule... C'est un peu la impression que j'avais, une seule femme arrive comme ça, donc la woman 1... vous regarde, vous fait peur, vous fait rire, vous emmerde, voilà. Et donc c'est très très vivant, et ces peintures sont très colorées, ces peintures sont... Voilà, donc pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi ces femmes sont au front de la peinture? Alors j'y réponds un peu dans la troisième partie du livre,
ouais.
Voilà, je les décris, je m'amuse avec... Je fais jouer des citations de Kooning, voilà.
Ouais, avec il y a des illustrations aussi de voilà. des reproductions.
Voilà, des reproductions, et puis je décris après une sculpture qui s'appelle Standing Figure, que de Kooning a commencé à faire une forme de peut-être 20 cm sur 10, lors d'un séjour à Rome, on lui prête un atelier, donc il fait cette sculpture en terre. Et il va la décliner de 1969 jusqu'en 84. Elle va finir 6 mètres de long, 2 mètres de haut. Et en 2012, elle est exposée dans le cadre de la FIAC. Et à ce moment-là, moi je crois qu'il y a une sculpture de Kooning qui est là, qui va rester dans les jardins des Tuileries. Non, c'est juste pendant la FIAC. Et donc cette sculpture me donne envie de la parler. Voilà. Donc,
ouais,
je la parle. Voilà. De fil en aiguille, ce texte ce texte est relayé par un site, et puis voilà, ça fera aussi l'objet d'une publication dans la revue L'Infini en 2014.
Oui.
Voilà, donc les choses mettent du temps pour avant de faire ce livre en 2019, il a fallu tout ça.
Oui.
Voir si ce qu'on disait n'était pas trop léger ou trop abscon, trop obscur.
Mais de toute façon, oui, ce temps, c'est une manière de voir les choses qui te va aussi. Tout à l'heure, avant l'émission, on parlait aussi de blanc, de silence.
D'ailleurs, on va peut-être en faire un de 15 secondes.
Allez. Voilà. Donc, d'ailleurs, en préparant l'émission, là, oui, la parole médiatique.
La parole médiatique.
C'est oui. Quelque chose, en fait, ça m'intéresse. C'est quelque chose, moi, qui me travaille aussi. Donc, ça m'intéresse que tu je dirais, achoppes aussi sur cette question.
Ben, moi, j'ai toujours eu l'impression, quand même, que les médias, c'était un peu des broyeurs de personnalité. Ouais. C'est la première chose qui me vient. Moi, je ne suis pas du tout aguerri à l'exercice que je fais aujourd'hui avec toi, mais. Comme c'est très sympathique, ça passera, ou ça passera pas. Et voilà.
Après, oui, tu préfères interroger, toi, l'autre.
Voilà, moi je me suis... Ouais,
qu'être cuisiné comme ça.
Voilà, mais cuisiner c'est bien, parce que c'est une bonne cuisine, voilà. Vraisemblablement. Non, moi j'ai beaucoup interviewé, et puis là, comme il y a le livre qui est sorti, ben, on me pose pas mal de questions, et puis c'est aussi un peu avancé dans l'expression, dans l'oralité, après l'écrit, il faut présenter comme ça. Et surtout, c'est hors tout cadre commercial, c'est-à-dire que la plupart des auteurs vont vendre leurs livres parce que leur éditeur, moi mon éditeur, il n'en a strictement rien à faire, il trouve qu'on en a trop vendu.
Oui, vous allez faire une réédition, tu m'as dit.
Et voilà, on va faire une troisième.
Augmentée.
Voilà, on a fait déjà, c'est la deuxième, on fait une troisième édition augmentée d'un texte qui s'appelle « L'aquatique de Kooning ». Qui parle un peu de la dernière période, où vraiment les women deviennent de plus en plus fluides, quitte à disparaître, comme ça, et comme il vit...
Ça va sortir quand ?
Ça va sortir dans un mois et demi maximum, dans un mois à peu près.
D'accord, voilà. D'accord.
Donc l'aquatique de Kooning.
Donc on revient aussi sur la revue, Sprezzatura.
Alors Sprezzatura, Sandrick Lemaguère, mon ami de longue date, avec Métis Navarro... donc Sandrick Lemaguère, brestois, on se retrouve lors d'un séminaire donc de Gérard Guest à Paris, et puis on se dit on a peut-être des choses à dire, on peut peut-être constituer quelque chose. Donc on a constitué cette revue qui a vu 6 numéros, donc c'est une revue un peu exigeante mais à la fois très éclatée, c'est-à-dire qui on peut pas parler de politique, mais qui a des formes qui va, on va dire, du Talmud au commandant Marcos, hein. Donc c'est quand même assez large comme champ, voilà, donc une grande liberté. Il y a 7 intervenants principaux, c'est une revue un peu confidentielle, dans que moi j'ai considéré comme un atelier d'écriture, c'est-à-dire qu'à partir de 2009 je gribouillais des choses un peu, enfin évidemment je préparais les entretiens que je faisais. Et là, je me suis dit, je vais constituer des textes un peu formatés, pour revue, 7-8 pages, comme ça. Donc, ce qui était bien, c'est que je savais que j'allais être édité, en plus. Contrairement où tu l'envoies une revue.
Oui, on faisait
partie, donc là, c'était sûr que ça passait. Et puis, voilà. Et puis, par un hasard ou pas, toujours Solers a récupéré, sans me le dire, et tant mieux... mon texte Virtuosité du cœur qui était sur Bordeaux, sur les femmes, sur Bordeaux, sur le taoïsme, sur les dogons, enfin sur plein de choses. Et donc, ça a été mon premier texte dans une revue nationale, enfin je dirais, voilà, chez Gallimard. Voilà. Alors, ça met du temps, tout ça. Et donc, cette revue, elle a été active. Et aujourd'hui, elle va devenir plutôt maison d'édition,
voilà.
De revue. Voilà, elle va devenir maison d'édition. Et donc il y aura des textes qui vont sortir. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. C'est mon ami Sandrick qui va s'occuper de ça principalement.
D'accord. Donc tu viens aussi d'employer un terme, c'est quelque chose, je sais, qui te... tu t'intéresses de près, les dogons.
Ah, les dogons.
Est-ce que, culturellement, quel objet culturel tu peux nous faire arriver dans ton intérêt pour les dogons?
Alors les dogons,
ça serait peut-être des choses plus plastiques.
Voilà, les dogons, ça part quand même de cette revue qui s'appelle Le Minotaure, où Michel Léris fait un texte sur les dogons avec Griot, Léris, ils vont faire le Dakar, Djibouti, et ils croisent le peuple dogon, et là ils voient qu'il y a une cosmogonie, qu'il y a un univers que les Occidentaux n'ont absolument pas remarqué avant eux, mais qui est une puissance symbolique très très forte. Voilà. Donc l'Afrique, Voilà, c'est formidable. Alors, l'Afrique, on voudrait comme ça écraser, colonial, qu'on a écrasé colonialement. Voilà, ben là,
mais c'est un endroit particulier de l'Afrique.
Alors c'est le Mali. Voilà. C'est le Mali, c'est la falaise de Bandiagara. C'est des masques particuliers, c'est des défilés funéraires aussi très singuliers, avec des grands masques qui font aussi 6 ou 7 mètres de haut. Voilà. Et alors après Griol, après Griol et tout ça, il y a Rouche qui parle au cinéma avec Germaine Déterlin, qui lui va effectivement filmer les Dogons de tout près. Donc on a des super documents. Voilà, il y a une esthétique aussi, hein, c'est-à-dire cette terre ocre où le renard pâle vient poser ses pattes en divination. Il y a toute une ritualisation. C'est une vraie religion en tant que telle, quoi. Voilà.
Oui. Et on imagine que tout ce qui est art et religion est encore relié là-bas,
complètement.
Incarné, quoi. C'est pas dans la marge, comme dans notre.
Du tout. Comme disait Nietzsche, enfin Dieu est mort, mais pas là-bas, quoi. Il y a encore quelque chose de l'ordre. En tout cas, de l'ordre de la. Il y a un rapport à la divinité. Il y a un rapport au sacré.
Oui.
Il y a quelque chose de sacré qui nous est très difficile de comprendre parce que c'est traditionnel. C'est voilà. Donc les Dogons. Les Dogons. On a envie d'aller en 2028 pour le prochain Sigui. Voir un peu ce qui va se passer. C'est pas très loin, c'est dans 8 ans.
T'es optimiste.
Je crois que c'est 2028, si je me trompe pas. Et donc l'Afrique. Donc l'Afrique aussi très importante, parce que dans l'Afrique, il y a des corps, il y a de la joie, il y a de la danse, il y a de l'intelligence, il y a du regard, il y a quelque chose qui nous éclaire. Depuis ce continent noir, ce continent qu'on voudrait sombre, il n'est pas si sombre que ça. Et il y a des cultures, et il suffit de voir les masques. Pas que des dogons bien sûr, mais d'autres, quoi. Voilà, donc vive les Dogons.
Bien. Bon, très cher Jean-Hugues, nous allons passer le dernier morceau de l'émission, et après on va faire un quatrième volet, exceptionnellement, mais c'est super.